fameux quatrième titre majeur d'affilée. Nadal s'est adjugé aujourd'hui son 11e trophée du Grand Chelem. Il rejoint au palmarès Rod Laver et Björn Borg. Et en remportant pour la 7e fois à Roland-Garros le même tournoi, il égale Pete Sampras qui lui a gagné 7 fois Wimbledon. Roland-Garros, Fabrice Abgral, France Inter.
Et pour l'instant sur France Inter, il est 15h03.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Rendez-vous pour des enregistrements du jeu des 1000 euros dans l'Hérault. Aujourd'hui, lundi, à Valras-Plage, au Palais de la Mer à 18h30. Et demain mardi, nous serons toujours dans l'Hérault, à Saint-Guilhem-le-Désert à 19h au Théâtre de Verdure. Les sélections se font sur place à la même heure.
Radio France, partenaire des défis de Philippe Croizon, nager au-delà des frontières. Philippe Croizon et ce nageur amputé des quatre membres. Avec Arnaud Chasserie, ils viennent de réussir le premier défi en reliant la Papouasie à l'Indonésie à la nage.
On vient juste d'arriver, Arnaud et un nageur papou qui nous a accompagnés. C'est vraiment le symbole de nageurs des frontières qui a été fait aujourd'hui.
Leur deuxième traversée, de Aqaba en Jordanie à Taba en Égypte. Suivez les exploits de Philippe Croizon et Arnaud Chasserie dans les émissions de France Inter et sur radiofrance.fr et nageauxdelà-des-frontières.com. France Inter, la différence.
Là-bas, si j'y suis avec Daniel Mermet et son répondeur, c'est maintenant.
Salut Daniel, salut tous les AMG. J'ai un peu, beaucoup même, la gueule de bois ce matin quand je compare les scores du Front de Gauche avec ceux du Front National. Et je me dis que décidément, bien peu de nos concitoyens ont compris la vraie nature des menaces qui pèsent sur le pays. Qu'après 5 ans de sarkozysme entre l'imposition des indemnités d'accident du travail et la chasse aux roms, entre autres mesures indignes, la droite et l'extrême droite soient encore à des niveaux pareils, vraiment les bras m'en tombent. Alors, on continue la lutte en espérant que le travail finira par payer, que les consciences s'éveilleront. Bonne journée à tous, malgré tout, c'était Laurent du Val d'Oise.
Bonjour à tous, là, je m'appelle Pierre, j'habite à Cavaillon, au Ratacan. Malheureusement, les législatives, ça a bien confirmé votre émission. C'est bien triste parce que j'ai l'impression que l'histoire, ça sert à rien du tout. Mais on baissera pas les bras, puis on luttera toujours contre ces fous nationaux, là, parce que, franchement... Si on donnait un petit peu de travail à tout le monde et qu'on éduque les gens comme il faut, ça irait mieux. Il y en a vraiment ras-le-bol de voir moi je le dis carrément, c'est. Voilà. Il y en a marre, mais on va quand même lutter contre. On baisse pas les bras et on tiendra le coup. Mais franchement, c'est triste hein, pour une ville comme Cavaillon. Bravo les Cavaillonnais, bravo.
Ouais, je suis en train d'écouter les émissions sur Cavaillon. Je suis un petit-fils d'émigrés italiens. Et... Ça va vachement toucher, ça me fait mal d'entendre ça, mais ça fait longtemps qu'on entend ça. Et en même temps, c'est marrant parce que je suis musicien et il y a plein de gens qui viennent me voir à la fin des concerts et qui me disent « Ouais, c'était super, c'était cool et tout ». J'ai envie de leur dire « Ouais, tu vois, mais et ces gens-là, je sais qu'ils votent Le Pen pour la plupart. Enfin, certains, je le sais. Et ça me fait marrer parce que je me dis « Mais tu viendrais jamais me saluer, tu votes Le Pen ». Alors que, enfin, c'est la contradiction, quoi. Ils viennent me voir, ils me félicitent et en fait, ils votent contre moi quand ils votent. Bravo pour l'émission, c'est une façon intelligente d'expliquer les choses. De toute façon, étranger, tu es la cause de mes problèmes, c'est vraiment récurrent dans l'histoire. Et j'ai bien peur qu'on n'en ait pas fini avec ça. Salut, c'est Francis de Caen.
Cher monsieur Mermet, je me permets de vous laisser ce message car je suis ulcéré. J'en ai assez de vous entendre laisser donner la parole à tous ces bobos qui sont hors de la vraie vie. Je vous appelle aujourd'hui, il est 16h06. C'est la deuxième fois depuis le début de l'année que les gendarmes m'appellent pour me dire que nous avons été cambriolés et nous savons de qui il s'agit. Je ne suis absolument pas raciste, pas du tout facho, mais les gendarmes me confirment qu'il s'agit bien de Roms et que ces personnes-là, j'habite dans le Var. On en vire un, il y en a 10 qui reviennent parce qu'ils savent très bien que chez nous, ils ne seront pas punis. Encore une fois, j'insiste sur le fait que je ne suis pas facho et j'entends en permanence vos petits bobos là dans leurs repères et compagnie. Qui invite les gens à la régularisation massive des sans-papiers, des trucs et des machins. Venez dans la vraie vie plutôt que de vous balader à droite et à gauche. Descendez à Nice, venez voir tous ces gens qui mettent leurs jeunes filles sur les trottoirs le soir quand on sort du bureau, on a les gamins mais qui n'ont même pas 20 ans. Venez voir ce que c'est que la vraie vie. Sortez de vos petits bureaux, arrêtez d'aller en Afrique et de faire croire que c'est là-bas que tout se passe, là-bas où tout est dur. Nous, on en chie et moi je vous dis j'en ai marre. Merci, un auditeur qui quand même adore France Inter, mais là, il y en a ras la casquette. Merci les bobos. Allez, passez un bon week-end.
J'ai bien écouté votre émission hier après-midi concernant Cavaillon et avant-hier déjà. Et je ne suis pas surpris qu'il y ait autant de gens qui votent Front National là-bas. Moi, j'habite un petit village dans l'Est, en Moselle, pas loin de l'Alsace, qui vote également aussi Front National. Et moi, j'habite un petit village de 400 habitants. Et aux dernières élections, au premier tour, il y a eu 35% de gens qui votent Front National. Donc, il n'y a pas que dans le Sud que ça se passe. Ça se passe également ici en Moselle, et beaucoup même, je dirais. Donc, vous voyez, et un petit village où il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Très, très peu même, je dirais. Il n'y en a pas du tout. Je vous embrasse tous. Et continuez.
Oui, bonjour. Ben, je vous appelle parce que j'écoute l'émission en ce moment là sur Cavaillon, là, avec les cités. Là. Mais c'est odieux ce que vous faites. C'est odieux, odieux. En France, franchement, moi, tous mes potes d'enfance, c'est tous des Algériens, des Marocains, tout ça. Mais franchement, ils sont dégoûtés quoi quand ils entendent des trucs comme ça. Parce que franchement, les Français, on n'est pas racistes. C'est eux-mêmes qui disent qu'ils sont pas... Quand ils appellent les autres, ils disent « Ah, lui, c'est un Français ». Et quand nous, on se fait insulter de sale Français, on ne peut pas aller porter plainte. Nous, on n'a pas le droit, nous, par contre. Et puis, au passage, Monsieur Mermet et consorts, vous habitez où, vous? Vous habitez certainement pas dans une cité comme ça. Alors, c'est bien gentil de défendre la veuve et l'orphelin, mais prenez-les chez vous. Prenez-les chez vous. Et puis, vous verrez. Moi, j'habite avec eux, alors je le sais, hein. Sans problème. Et j'habite au milieu d'eux. Et je me marre tous les jours avec eux. Mais on est tous d'accord. Et vous faites totalement fausse route, totalement.
Bonjour, c'est Pascal, de la 4e circonscription du Vaucluse, c'est-à-dire Orange, un peu au-dessus de Cavaillon. Nous avons depuis 15 ans un maire d'extrême droite qui s'appelle Jacques Bompard. Il est en passe d'être élu député. Il faut tous aller voter dans un esprit républicain pour le candidat socialiste qui, malgré ses 19, un peu plus de 19%, risque d'être battu. Il ne faut pas que dans la circonscription, on envoie un ultra de l'extrême droite qui a milité pour l'OAS, dont la femme est élue à Bolène et qui est vraiment, lui, d'extrême droite. Et bonne journée à tous les AMG.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. L'histoire ne repasse pas les plats, mais souvent l'histoire revient déguisée. Si vous prenez la monarchie, par exemple, nous avons congédié la monarchie, mais... la monarchie est revenue déguisée en république. Tous les 5 ou 7 ans, nous élisons un nouveau monarque président. Tantôt, c'est un grand avec une voix de stentor. Tantôt, c'est un petit qui court dans tous les sens. Tantôt, c'est un homme normal qui s'arrête au feu rouge, ce qui fait l'admiration de tous les médias. Mais à chaque fois, c'est bel et bien sous les dehors d'un président de la république, un monarque qui nous domine. Déguisement dans l'histoire, il y a beaucoup d'exemples. On peut prendre l'extrême droite xénophobe qui utilise la laïcité, qui avance déguisée en laïcité et qui, de cette façon, fustige le communautarisme religieux, c'est-à-dire l'islam, ce qui est un moyen de propager la xénophobie. Un autre déguisement de la même extrême droite xénophobe va être le féminisme. Soudain, cette extrême droite devient féministe. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de défendre le droit des femmes à refuser de porter le voile et la burqa. Une façon, comme une autre, de propager une certaine islamophobie. Et un autre déguisement, actuellement, c'est celui du Front National. On parle de la dédiabolisation du Front National sous un déguisement altermondialiste. On réclame le protectionnisme, on critique la mondialisation, la dictature de la finance, etc. C'est-à-dire qu'on emprunte les idées de la gauche de gauche, de la gauche radicale. Mais derrière ce déguisement, on retrouve la même bonne vieille xénophobie. C'est tous ces déguisements, c'est tous ces oripeaux qu'il faudrait deviner, qu'il faudrait déceler et dont il faudrait dépouiller ses adversaires irréductibles. Voilà ce à quoi on peut penser devant le résultat de ce premier tour des élections législatives. Donc aujourd'hui, nous retrouvons le monde diplomatique. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Amis de Lille et du Nord, bonjour. Entre les deux tours, venez trinquer et discuter ce lundi soir à 20h au Café Repère L'Imaginaire dans le Vieux-Lille avec les amis de Là-bas si j'y suis. Venez nombreux, à ce soir.
Amis de la région dijonnaise, les salariés de l'usine RL Idriss, suite à l'occupation de leur usine depuis plus de 200 jours, sont convoqués au tribunal à la demande de l'administrateur afin de régler ce qui est dû à EDF, GDF, plus 1048 euros par jour d'occupation pour chaque salarié. Donc, rendez-vous ce mardi à 9h au tribunal de grande instance de Dijon. Soyons nombreux. Merci, Anne.
Bonjour. Le dernier Café Repère de la saison à Nevers, eh bien, c'est cette semaine, mercredi 13 juin à 20h. C'est chez les copains d'abord. C'est juste après l'atelier d'écriture et c'est juste en face du marché Carnot. Apportez vos sujets de discussion. À bientôt. Au revoir.
Salut Daniel Mermet. Salut Là-bas si j'y suis. Il y a 13 ans, en 99, le Kosovo était envahi par l'OTAN, la Serbie était bombardée, beaucoup l'ont oublié, et beaucoup ont oublié aussi qu'à l'époque, le gouvernement de Lionel Jospin avait cautionné ces frappes de l'OTAN, et justement, François Hollande, son disciple, vient de remporter une majorité à l'Assemblée, et je te parle de tout ça parce que justement, demain, mardi 12 juin, au repère AMG, au café Le Lieu-Dit dans le 20e arrondissement de Paris, se tiendra une conférence lecture à partir d'une pièce de théâtre qui s'appelle Arc en Noir et qui traite notamment des thèmes des bombardements par l'OTAN en Serbie et de l'invasion par l'OTAN du Kosovo. Voilà, donc venez nombreux assister à cette conférence lecture. Je vous embrasse, salut.
Le PS et l'UMP devraient remporter la quasi-totalité des sièges aux élections législatives en France. Tout va bien. L'Europe va renflouer les banques espagnoles à hauteur de 100 millions d'euros. Tout va bien. 4 soldats français ont été tués en Afghanistan. Oui, ben, tout va bien. La police chilienne a chargé des manifestants qui tentaient de s'opposer à une cérémonie hommage à Pinochet. Tout va bien. Les épreuves de championnat d'Europe de football ont commencé à se dérouler en Pologne et en Ukraine. Tout va bien. Le Grand Prix de Formule 1 du Canada a bien eu lieu. La police a chargé à coups de matraque les manifestants qui cherchaient à empêcher le bon déroulement de l'épreuve et a procédé à plus de 30 arrestations préventives. Tout va bien. La finale de Roland-Garros a dû être interrompue. Ah ! À cause de la pluie, mais reprendra aujourd'hui. Ah ! Tout va bien, tout va bien, tout va bien.
Salut, c'est Daniel Mermet, et là-bas, j'y suis avec le monde diplomatique.
Flight number 2, arriving from New York.
Nous voilà avec le numéro du mois de juin du monde diplomatique. Et on a pas mal de sujets à évoquer. On va tout de suite commencer par la dette. La dette, quelle dette? On se souvient de la crise, quelle crise, hein? Bien connu des auditeurs de là-bas si j'y suis, tout comme le sujet de la dette. Et là, le diplo, à travers ce papier de Jean Gadret, qui aujourd'hui est représenté et comment par Frédéric Lemaire, on va s'intéresser au succès des comités d'audit citoyens qui sont constitués un peu partout pour essayer de comprendre comment fonctionne le système de la dette. Il s'agit évidemment des dettes, de la dette publique. Et pour un audit citoyen, parce que finalement, on nous dit, oui, il y a une part de la dette, une part odieuse de la dette que nous n'avons pas à rembourser, puis il y a la dette que nous devons rembourser. Et effectivement, on se dit, mais alors, comment établir, comment mesurer ce que nous ne devons pas rembourser? Ça nous intéresse bien. Et on cite tout de suite l'exemple de l'Équateur. Très souvent, le CADTM le fait souvent, de citer l'exemple de l'Équateur. Alors, pour ce qui concerne, disons au hasard, un pays comme la Grèce ou la France, par exemple, des pays qui nous sont familiers, comment on s'y prend, Frédéric Lemaire.
Alors, la différence quand même qu'il faut saisir entre le cas de la France et le cas de l'Équateur, c'est que dans le cas de l'Équateur, donc l'audit qui a été mené par le président Rafael Correa est un audit public, c'est-à-dire mené par le pouvoir public, qui a accès, effectivement, comme vous le disiez, à un certain nombre de documents et qui permet d'établir des conclusions très claires en termes de telle partie de la dette a été contractée contre l'intérêt public. Dans le cas de la France, il y a une différence de nature dans le processus. Quand on parle d'audit citoyen, en fait, on évoque une mobilisation populaire qui a pour but de contrer en fait un certain nombre de lieux communs du discours dominant qui vise à imposer une forme de résignation par rapport à la question de la dette. Et cette question de la dette, elle est vraiment centrale dans la bataille idéologique qui se joue actuellement, c'est-à-dire qu'elle justifie des politiques d'austérité qui sont largement impopulaires, en fait sous une forme de menace. On a une espèce de chantage à la catastrophe économique. On le voit en France quand Monsieur Fillon disait que l'État français était en faillite, et on le voit avec la Grèce actuellement. Donc l'idée, c'est de désarmer ce discours dominant, qui est souvent relayé d'ailleurs par de nombreux éditorialistes. En fait, c'est le discours classique qu'on entend. Il n'y a pas d'alternative à la rigueur. Maintenant, on a trop dépensé. Maintenant, il faut payer la dette. Il faut des mesures d'austérité. Nous, ce qu'on veut faire à travers cet audit citoyen, c'est une mobilisation donc populaire et qui permette de casser cette résignation, de déverrouiller le débat sur les alternatives.
Oui, c'est-à-dire que l'image est rapprochée. On rapproche cette image de l'endettement d'un ménage ou l'endettement d'une personne. Évidemment, si on a trop dépensé, il faut économiser, se serrer la ceinture, etc. Or, la dette des États n'a rien à voir avec les dettes des particuliers.
Absolument. Alors, par exemple, effectivement, on donne l'exemple du ménage. On ne peut pas dépenser plus qu'on gagne. Mais la différence, c'est qu'en l'occurrence, un État, il peut jouer sur ses recettes. Et ce qu'on constate, ce que dit Jean Gadret dans son papier, les gens sont toujours étonnés d'apprendre que effectivement les dépenses publiques n'ont pas augmenté depuis 20 ans. Depuis les années 80, en fait, on se rend compte que l'augmentation du déficit public est en fait une conséquence de la diminution des recettes de l'État. Voilà, après on peut chiffrer les cadeaux fiscaux faits aux grandes entreprises, aux revenus. En l'occurrence, le quinquennat de Sarkozy a été assez exemplaire à cet égard. Donc il y a ces lieux communs donc à contrer, et cette mobilisation, le succès de cette mobilisation, elle s'explique en fait par des attentes très fortes au-delà d'un public militant. Bon, le collectif pour un audit citoyen, c'est à l'origine un appel qui a été lancé par une trentaine d'organisations, dont ATTAC, Copernic, le CADTM et des organisations syndicales, pour justement permettre de mettre en place les conditions d'un débat au niveau aussi local. C'est-à-dire, vous avez évoqué les collectifs locaux, il y a eu une dynamique locale très forte avec plus d'une centaine de collectifs, de nombreuses réunions publiques, et on voit que les gens s'approprient ces sujets. On voit une circulation, une créativité aussi très importante, des supports vidéo, des animations, des documents que les gens s'approprient sur la question de la dette, et une diffusion, on va dire, d'une pensée économique hétérodoxe. On sent que ça rentre un peu dans le débat public, et c'est vraiment l'idée donc d'un audit.
Ce que vous dites, au passage, ça montre que quand même, je ne veux pas dire du mal des médias, c'est pas du tout dans nos habitudes, mais enfin, ça voudrait dire quand même que les médias font pas leur boulot, quoi. S'il faut tout ce travail militant de base qui s'infiltre peu à peu, comme ça, ça montre que on n'a pas réussi jusque-là à faire comprendre une chose aussi essentielle, aussi capitale que la dette.
Avec la dette publique, dette publique, dette publique, tous les conflits dans ces rapiques, y'a rien de mieux d'Athènes à Paris, pour nous foutre en lettres vos acquis. Mais ne vous laissez pas trop embobiner, c'est eux qui l'ont creusé.
Conférence gesticulée.
Alors, vous les entendez, tous ces experts en économie, invités au journal télévisé, ils vous disent que l'État dépense trop.
C'est faux.
Par le collectif pour un audit citoyen de Saint-Malo.
C'est juste la finance qui veut que l'État soit de plus en plus rikiki.
Rikiki. Rikiki.
Qu'il diminue ses dépenses sociales.
Que tout passe au privé, l'école, la santé, les retraites.
Alors, creuser la dette. Et nous faire peur ensuite avec le triple A.
Ah.
Ah. Ah. ça les arrange bien.
Avec la dette publique, tous les gros financiers appliquent, il n'y a rien de mieux d'Athènes à Paris, pour nous foutre en l'air tous nos acquis, pour un État au service des citoyens, il nous faut des moyens.
Alain Grech. On avait publié dans le Monde diplomatique un article sur les économistes mercenaires. Je ne sais pas si c'était exactement la formule. Mais il faut bien voir que si on fait la liste des économistes invités dans les émissions des différentes radios, y compris les radios publiques, on se rend compte qu'ils ont tous, ils sont tous présentés comme des économistes, donc en gros des scientifiques objectifs, alors qu'ils ont tous des postes de responsabilité dans des grandes banques, dans des conseils financiers, etc. Et je crois que ça joue un rôle idéologique important.
Puis moi, je pense qu'il y a un exemple à citer, et qui est cité d'ailleurs dans l'article de Jean Gadret, c'est la mobilisation pour le non au traité constitutionnel en 2005, qui est quand même un peu un précédent à cette mobilisation des collectifs locaux. C'est-à-dire qu'à l'époque, déjà, on avait une espèce de chape de plomb avec un certain nombre d'éditorialistes qui, justement, faisaient ouvertement campagne pour le oui au référendum et pour l'Europe du traité constitutionnel. Donc,
qui se sont lourdement trompés.
Comme quoi, il y a de l'espoir.
Alain Grech. Comme quoi, il y a de l'espoir. J'ai entendu une petite phrase dans le lointain. Ça fait bizarre d'être... On est avec le monde diplomatique et quelqu'un au loin dit comme quoi, il y a de l'espoir.
Ce qui pose problème dans la discussion autour du traité constitutionnel et du oui, c'est pas qu'il y ait eu des gens qui, à la radio, à la télévision, aient défendu le oui. C'est que 90% des éditorialistes aient défendu le oui dans un pays qui l'a rejeté à 55%. C'est là où on se rend compte la coupure entre l'univers médiatique et, en tous les cas, l'univers des éditorialistes et la population. Il y a une pression, moi je suis frappé par la pression médiatique pour dire aux gens, de toute façon, quoi que vous votiez, il n'y a qu'une politique à faire. Donc vous votez à gauche, à droite, ce n'est pas important. De toute façon, il n'y aura que l'austérité au bout du chemin.
Oui, enfin ce qu'on voit quand même actuellement, c'est un intérêt, une demande d'information, de débat de la part du public par rapport à cette situation électorale. Tout comme en 2005, le texte du traité de constitution a été le best-seller de l'année. Oui. Ça a été le bouquin le plus vendu. Ça veut dire que des centaines de milliers de Français se sont penchés sur ce texte particulièrement difficile, juridique, emmerdant comme la pluie. Donc s'ils sont capables de faire ça, si nous sommes capables, j'en fais partie, on est tout à fait capables de participer à ces audits.
Ouais. Non, je crois qu'effectivement, c'est le fait de faire d'un sujet complètement aride comme celui que peut l'être celui de la dette un objet de curiosité, de débat, etc. Mais je voudrais revenir juste sur la question des médias parce que je pense qu'il y a des enjeux très forts en ce moment. Pour donner une idée du discours auquel on a affaire, je voudrais citer un éditorial du Monde du 12 mai 2012 où le rédacteur en chef Eric Israelevich explique que, je cite, chaque Grec a touché depuis janvier 2010, l'équivalent de 31 000 euros acquittés d'une manière ou d'une autre par les contribuables européens. Alors, l'idée que chaque Grec...
Cette phrase a eu beaucoup d'effets d'importance en Grèce même. Les Grecs n'ont pas vraiment apprécié.
Voilà, mais il faut dire tout de même que ça relève quand même d'une pure escroquerie intellectuelle. Puisque, on sait très bien que l'argent des plans de sauvetage ne va pas dans les poches de chaque Grec, mais contribue en grande partie à garantir les flux d'intérêts que la Grèce paye à ses créanciers. Quand on voit que Israelevich en vient presque à des menaces, il explique si les Grecs veulent continuer à faire partie du club, ils doivent en accepter le règlement intérieur et l'appliquer. Il n'est pas admissible qu'un petit pays, par son refus des règles du jeu, puisse continuer à mettre en danger l'ensemble du continent. Donc il y a vraiment une radicalisation, y compris du discours, de cette rigueur implacable qu'on voudrait nous imposer. Donc il y a une responsabilité de la part de la gauche, je dirais plutôt. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce rassemblement de syndicats et d'associations pour forger à la fois des armes intellectuelles, des armes idéologiques pour contrer ce discours, mais aussi proposer des leviers de mobilisation. Et c'est vraiment le rôle que veut se donner ce collectif d'audit citoyen.
Il était couvert de dettes, de la tête aux pieds. Chez lui venait faire la quête, tous ses créanciers. Et pour fuir ses personnages qui le torturaient, un jour sans faire de tapage, il partit pour la forêt. Au pied d'un arbre, il s'endormit, mais pendant qu'il rêvait, un oiseau tout en haut de lui
sur une branche lui chantait. Paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Il se dit dans son sommeil, c'est la voix de ma conscience qui me poursuit et me surveille. Je vais à mon réveil rembourser ces braves amis qui m'ont fait confiance. Non plus jamais, je me le dis, je ne veux de crédit. Paye tes dettes, disait. Paye tes dettes, l'oiseau. Paye tes dettes, allez. Il y fut, fut tout de go. Quel souvenir, quelle belle journée, quand il régla tout, tout ce qu'il devait depuis des années, jusqu'au dernier sou. Il se défie même de sa chemise, bon, on peut se passer de ça. Dans les bois soufflait la brise, tout joyeux il y retourna. Sous le même arbre il s'étendit, alors le même oiseau vint se poser là, tout près de lui, en répétant d'un air idiot. Paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Paye tes dettes, une, deux. Allez, allez, paye, paye tes dettes, mon vieux. Il faut payer toutes, toutes tes dettes. Paye, 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 paye.
Bon, on est avec le diplôme du mois de juin. On continue avec la santé publique. André Grimaldi, vous êtes intéressé à l'hôpital. De façon oui. générale, c'est un petit peu le lieu où vous vivez. Quoi.
Oui, absolument.
La plupart du temps.
Depuis 40 ans.
Depuis 40 ans, voilà. Et vous êtes intéressé à l'hôpital malade de la rentabilité. C'est un de vos bouquins, ou les derniers bouquins. Et là, vous vous intéressez à l'assurance maladie qui se dégrade, qui s'est dégradée. Vous évoquez le désert médical dans le monde rural et dans certaines banlieues, la baisse des remboursements, etc. Mais l'article finit bien parce que vous avez des pistes et des exemples possibles.
Ben oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire, c'est qu'on hérite d'un système qui a été considéré comme un des meilleurs du monde, qui est un système mixte, c'est-à-dire public et privé. Alors, ce système-là a fonctionné, en gros, que la fin des Trente Glorieuses. Puis après, vu le coup, il a fallu choisir des régulations. Et on a que deux solutions, hein. Soit une régulation publique, soit une régulation par le marché. Par le marché, ça veut dire, vous paierez votre santé directement ou par biais d'assureur. Alors, qui dit mutuelle ou qui dit assureur dit moins d'égalité, moins de solidarité et moins d'efficience, hein. Les frais de gestion des mutuelles et assureurs, c'est environ 20% de leur chiffre d'affaires. La Sécu, c'est moins de 5%. Donc un euro qui passe de la
Sécu... Ça, c'est quand même important, ce que vous
dites oui.
là.
Oui, et...
On pense tout de suite Sécu, gâchis, bureaux, des gens qui roupillent derrière les guichets.
C'est l'inverse, parce que vous pouvez comprendre que dès que vous rentrez dans la logique mutuelle, assureur privé, c'est-à-dire concurrence, publicité, contentieux, ils embauchaient des avocats, vous embauchez des médecins pour dire « mais non, votre assurance ne correspond pas ». Enfin, vous avez un business là, autrement plus coûteux que la sécurité sociale. Ça fait partie d'ailleurs du coût aux USA qui dépensent près de 16% de leur produit intérieur brut pour la santé, avec des résultats catastrophiques. Or, tous les gouvernements, à partir des années 75, ont utilisé un peu les deux, un peu le marché et un peu la régulation publique. Et dans les 10 dernières années, régulation par le marché. Les malades paieront, hein, on laisse filer les dépassements d'honoraires. La loi 2009 HPST supprime le mot service public hospitalier. Il n'y a plus que des établissements en concurrence. Hein. Alors, cette logique-là, c'est l'échec. C'est l'échec. Le marché ne peut pas réguler la santé.
Pour la bonne comment ça
eh ben, pour la bonne raison, c'est qu'un patient n'est pas un consommateur éclairé. C'est quelqu'un d'angoissé, totalement manipulable. Je vous donne un exemple. On dit liberté d'installation et liberté tarifaire. Vous vous dites, les médecins qui font une liberté tarifaire, en secteur 2, surtout les spécialistes, vont se répartir sur le territoire. Non, non, ils se mettent tous au même endroit. Et en fait, d'homogénéité, c'est l'homogénéité du dépassement des tarifs. Hein ? Parce que quand vous êtes patient, qu'est-ce que vous croyez ? Vous dites, si c'est plus cher, c'est que c'est sûrement mieux. Si c'est votre gosse qui est malade, on vous dit, il y a un traitement, certes très cher, c'est le professeur, puis il y en a un autre, mais qui est très bien également, hein ? Mais ça sera moins cher. Qu'est-ce que vous prenez ? Vous prenez le plus cher, y compris vous dites, s'il y avait une catastrophe, je ne veux pas me le reprocher. Donc, au besoin, je vais m'endetter. Voilà, on est dans la manipulation. Il faut se rappeler qu'on a eu un président de la République qui avait un cancer, qui en est mort. À la fin de sa vie, il a été voir des charlatans. Bon, c'est pas parce que vous êtes riche que vous êtes bien soigné. Récemment, on a eu l'histoire de Johnny Hallyday. Vous croyez que parce que vous payez très cher, vous êtes mieux soigné. Donc, l'idée d'une santé égalitaire et solidaire, c'est mieux pour l'ensemble de la population, y compris les couches aisées. Les USA dépensent le plus pour la santé. Ils sont 35e dans les critères de qualité de santé. Donc là, il y a un tournant à faire, parce que depuis 10 ans, et dans les 5 dernières années particulièrement, on a accéléré le processus privatisation rampante du système. Pour les soins courants, la Sécu ne rembourse plus que 50%. C'est les mutuelles et assureurs privés qui veulent prendre ce qu'on appelle le petit risque, c'est-à-dire le risque rentable. Bon, si on continue comme ça, ce qui va se passer, c'est que la population elle-même, les classes moyennes, vont dire « il y en a marre de la Sécu, on demande qu'elle soit mise en concurrence ». Vous savez qu'en Allemagne, quand vous avez des revenus supérieurs à 4 000 €, vous pouvez ne pas payer les cotisations sociales et avoir un assureur privé. Hein, et lorsque vous dites « il n'y a plus d'argent dans les caisses », je reprends la discussion sur la dette, comme le bon sens veut dire ben, « s'il n'y a plus d'argent dans les caisses, il faut garder cet argent pour les pauvres et pour les très graves, et puis les autres se paieront ». Mais quand vous avez fait ça, hein, une solidarité seulement pour les pauvres, c'est très vite une pauvre solidarité. Hein, aux USA, au final, ils ont l'équivalent de notre CMU qui est Medicaid, dans plein d'États, elle est en déficit, et donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en Arizona, par exemple, ils ont décidé qu'ils ne remboursaient plus les greffes d'organes. Donc vous êtes chômeur, vous faites une leucémie, ben vous crevez. Ça choque personne là-bas. En France, on n'en est pas là, donc il faut...
Ça choque personne là-bas. Ben, moi, je connais au moins un Américain que ça choque.
Quand je dis que ça choque personne, je veux dire, vous n'avez pas une manifestation, et vous avez vu que lorsqu'il y a eu la réforme Obama, des gens pouvaient manifester dans la rue pour dire que chacun se paye sa santé. Et vous comprenez pourquoi? C'est pas complètement absurde. Les Américains payent deux fois plus qu'un Français pour la santé. Ils vont payer 7 000 $ par an et nous 3 500, parce qu'ils payent à la fois pour la solidarité et leur assurance privée. Donc, encore une fois, le marché, la concurrence, ça diminue pas les coûts de santé. Ça les augmente et ça dégrade la qualité.
Restons un petit peu sur les dépassements d'honoraires de vos confrères, là. Vous êtes médecin. Oui. Qu'est-ce que vous dites à vos confrères qui écoutent là-bas si j'y suis l'après-midi?
Alors, les dépassements d'honoraires, évidemment, ça fait partie du système de privatisation. Actuellement, c'est 2,5 milliards sur 18 milliards au total remboursés par la Sécurité sociale. Donc, il y a 2,5 milliards de dépassements d'honoraires officiels. Hein, ça ne cesse d'augmenter. Avec des dérapages, vous ne pouvez pas quand même être dans un système dit conventionné et les tarifs sont libres. Mais qu'est-ce que ça veut dire conventionné? On ne comprend pas. Alors, la décision qu'il faut prendre, c'est les dépassements d'honoraires sont limités et la liberté d'installation est limitée pour les gens qui sont en secteur avec dépassement d'honoraires. Et puis on se donne les conditions pour aller progressivement vers la fin de ce secteur à dépassement d'honoraires. Ce n'est pas logique dans un système égalitaire et solidaire qui est un secteur à dépassement d'honoraires. Hein, donc c'est, en gros, on est dans une situation où il faut refondre notre système. Pourquoi on a des assurances dites complémentaires? Hein, qui vont payer les dépassements d'honoraires. Il y a toute une négociation. On devrait avoir la sécurité sociale qui rembourse, et puis pour ce qui relève de la solidarité. Et puis les soins qui ne relèvent pas de la solidarité, vous voulez, je ne sais pas, des cures thermales, et bien vous avez une assurance supplémentaire, mais pas dite complémentaire. Vous n'avez qu'une seule assurance pour être bien soigné, qui est la sécurité sociale. Donc là, il y a eu... Les tarifs des mutuelles et assurances privées ont augmenté de 5 à 7% par an depuis 8 ans. Tout cet argent qui est parti vers les assureurs et les mutuelles doit aller vers la Sécu. Et la France doit dire, avec la Sécurité sociale, ce qui est le cas de l'Alsace. On en revient à l'Alsace.
On revient à l'Alsace. On revient toujours plus ou moins à l'Alsace.
En Alsace, voilà une Sécu française qui a été bénéficiaire. Une Sécu bénéficiaire. Alors, pas énormément, mais bénéficiaire. Le trou de la Sécu. Alors là, en Alsace, il n'y a pas de trou de la Sécu, c'est l'inverse. Ils ont même diminué le taux des cotisations. Tout simplement parce que c'est la Sécu qui gère elle-même ce qu'est la Sécurité sociale nationale et ce qu'on appelle les assurances complémentaires dans un seul bloc, en augmentant la part des cotisations. Ben, c'est ça qu'on devrait avoir. Pourquoi on n'a pas un système de type Alsace-Moselle sur l'ensemble du territoire? On a un système mixte. Aujourd'hui, il faut le remettre à plat. Il faut savoir de quel côté on penche. Côté égalité et solidarité ou côté marché et concurrence. Et
faites-vous confiance à ce nouveau gouvernement pour répondre à vos vœux? Aux exemples que vous proposez.
Partiellement, écoutez, mais je pense que sans mobilisation, on retombe un peu sur le même débat que sur la dette. Quand est-ce que le système de santé français a vraiment changé? Quand est-ce qu'il y a eu des vrais changements? Autrement, il y a toujours eu des rustines, hein, plutôt de gauche, plutôt de droite, mais des rustines. Ça a été 45. Vous imaginez la situation, quand même, compromis entre le programme du Conseil national de la résistance et la médecine libérale, et 58. 58, grande crise politique. Le général de Gaulle gouverne par ordonnance. Son premier ministre s'appelle Michel Debré. Et des jeunes médecins, amenés par un gaulliste célèbre, Robert Debré, imposent la création des CHU. Quand je dis impose, je dis bien impose. C'était hyper violent. Hein. Ça a été imposé, ça a été un grand progrès, hein, qui était dans la foulée des idées du Conseil national de résistance d'un système public de santé. Donc, sans mobilisation forte, faut s'attendre à des aménagements. Mais comme il faut remettre tout à plat, très franchement, s'il n'y a pas de mobilisation sur le sujet pour une défense d'un système, d'un service public de santé hospitalier, médecine de proximité, médecine de prévention et de sécurité sanitaire, médecine de, le financement de la sécurité sociale, je pense que ça sera difficile, hein, parce qu'il y a beaucoup de lobbies dans la santé. La première raison pour laquelle ça ne bouge pas, c'est qu'il y a beaucoup de lobbies. Oui. Hein, dont les médecins qui font partie d'un lobby. Hein.
Ah oui.
Mais oui, ben, l'industrie pharmaceutique hein, qui est à 33% des dépenses de santé. Hein, c'est énorme. Quand vous pensez que les génériques en France, c'est deux fois plus qu'en Angleterre, le coût générique. La différence, c'est 1 milliard. Vous demandez pourquoi des génériques en France soient deux fois plus chers qu'en Angleterre. Bon, le tabac... C'est 12 milliards de taxes rapportées à l'État. Très bien. Mais c'est 18 milliards pour la sécurité sociale de dépenses. Il en manque 6. Et on ne taxe pas. Quand on augmente le prix des cigarettes, c'est seulement pour que ce soit rentable pour les cigarettiers. Hein, et c'est les fumeurs qui payent. Donc, voilà, les marges de manœuvre, elles existent. Dans les recettes, elles existent aussi. On parle des 35 milliards de niches sociales, plus Nicolas Sarkozy parlait des fraudeurs. Bon, il ne parlait pas des chefs d'entreprise qui ne déclarent pas. Qui ne paye pas cotisation sociale. Ça fait déjà 15 milliards. Il ne parlait pas de M. Servier, le plus grand fraudeur à la sécurité sociale qui ait eu. Hein, le remboursement de son médiator, je ne parle pas des complications, je parle du remboursement du médicament. C'était 1 milliard 200 millions. Pendant 30 ans. Bon. Donc, en santé, les marges de manœuvre, elles existent. On dépense près de 12% du produit intérieur brut. Alors, là, franchement, indépendamment d'autres sujets, c'est un sujet où on peut dire, avec les mêmes sommes, est-ce qu'on peut faire mieux ? La réponse est oui.
Alain Grèche, juste un mot, parce que ça me semble très important, c'est que, parce qu'on sent la pression sur ce gouvernement en disant l'austérité, il y a plein de choses qui on ne peut pas dépenser plus, etc. Et je crois que c'est important de comprendre aussi qu'il y a des réformes qu'on peut faire et qui ne sont pas forcément augmenter le budget de la santé. Et je crois que c'est vraiment très très important ça. C'est, je dirais, mais c'est en même temps une révolution culturelle. C'est-à-dire de se dire, oui, il faut une véritable réforme, il faut s'attaquer au lobby. Il y a aussi une question de volonté politique et de rompre avec une idéologie qui est celle depuis 20 ou 30 ans de cette espèce de libéralisme échevelé qui nous fait penser que ça résout tous les problèmes alors que ça les complique.
J'ai la peau du ventre bien tendue.
Oh, chérie.
Depuis 9 mois, il s'y prépare, la chambre est prête, aucun retard. Et c'est au cours d'un bon repas, avant la poire au chocolat, que Magali s'arrête et dit.
Ah non, mais je crois qu'il arrive, Jean-Phi.
Contrairement aux idées reçues, Jean-Phi est calme et détendu.
Oh, la brosse à dents et la layette
sont déjà dans la valisette.
Depuis le temps qu'il attend ça, il va enfin être papa. Aujourd'hui, vivre à la montagne, ce n'est pas une partie de campagne.
Magali connaît la leçon à chaque nouvelle contraction.
Elle note le temps qui s'écoule et pendant ce temps, Jean-Phi roule.
Manque d'expérience, elle sent qu'il y a urgence. Elle aide. Chérie, je ne veux pas t'affoler, mais si tu pouvais accélérer là.
Jean-Phi se sent pousser des ailes.
C'est un bon vide, ma 4L.
Vas-y là.
Comme un héros de film d'action, il écrase le champignon.
Broum.
Aujourd'hui, vivre à la montagne, ce n'est pas une partie de campagne.
Couchée sur la banquette arrière, Magali est toute de travers. Oh, j'ai pas éteint la cafetière.
Elle se sent mal, elle manque d'air.
Dans un nuage de poussière, ils arrivent à l'hôpital d'Ambert.
Jean-Philippe se jette sur une hôtesse et lui balance tout son stress.
Ma femme est en train d'accoucher. La maternité, s'il vous plaît.
Bah, monsieur, mais tenez-vous informé.
Ce service n'est plus assuré aujourd'hui. Vive la montagne. Ce n'est pas le départ du campagne.
On continue avec le diplôme de juin, et là, le foot, l'Eurofoot, David Garcia, c'est du 8 juin au 1er juillet, et on découvre, ben ça correspond un peu à tout ce qu'on vient de dire là, qu'il y aurait certains clubs de foot qui ne paieraient pas tellement leurs impôts, ni leurs cotisations sociales, c'est ça, si j'ai bien compris. Alors que le secret, toujours si j'ai bien compris ce que vous dites, pour gagner des matchs, c'est d'avoir beaucoup de sous pour payer des bons joueurs. C'est ça un peu en gros ce qui sort de votre papier.
Oui, c'est ça. Et même les clubs en question dont vous parlez, ce sont les clubs espagnols. Et on peut dire que l'histoire n'est pas très morale dans la mesure où ce sont les clubs qui payent le moins leurs impôts qui gagnent plus de matchs et de compétitions. En l'occurrence, en Espagne, les principaux clubs de foot ont des arriérés fiscaux de 752 millions d'euros. Et depuis des années, on a des gouvernements successifs, de gauche, le gouvernement socialiste jusqu'à l'année dernière, et de droite, qui...
Le mot est un peu fort, de gauche, là.
Oui, et qui permettent à ces clubs d'avoir des reports, de ne pas payer, quoi. Et il y a aussi un problème par rapport à la sécurité sociale, puisqu'ils ne payent pas leurs cotisations, quoi. Et donc, il y a aussi une dette par rapport à la Sécu qui est de 250 millions d'euros. Donc, ça fait en tout 1 milliard d'euros.
En Espagne, où 50% des jeunes sont au chômage, quoi, hein.
Ouais. Et ce qui est particulièrement choquant, c'est que cette inégalité, c'est-à-dire le fait que plus on contrevient aux règles fiscales, plus on a d'argent, plus on gagne des matchs, plus on gagne des compétitions, ça contrevient au principe fondamental du sport, qui est ce qu'on appelle la glorieuse incertitude du sport et le fair play. Et ça contrevient surtout totalement au discours officiel de l'UEFA. Alors l'UEFA organise l'Euro de football, le championnat d'Euro de foot, et surtout une grande compétition très médiatisée qui est la Ligue des champions, qui voit s'affronter les principaux clubs européens. Alors, je vais vous lire brièvement la grande philosophie de l'UEFA. L'UEFA affirme à chacun de ses congrès que le football est synonyme d'équité, que le football n'est pas un sport fermé auquel seuls les riches et les puissants pourraient participer, et que l'UEFA ne tolérera en aucune manière une structure ou un système où les petits clubs, les petites fédérations et leurs supporters n'auraient aucune chance de réaliser leurs rêves. Alors, évidemment, entre le discours et la réalité, il y a un léger écart, hein. Dans les faits... au-delà de l'Espagne, plus on est riche, plus on gagne des Coupes d'Europe, des Ligues des Champions. Sans argent, sans des dizaines de millions d'euros, impossible de recruter des Cristiano Ronaldo, des Didier Drogba. Et à ce jeu, les grands pays du football européen, l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie, dominent très très largement le football européen. Alors évidemment, l'UEFA est conscient du problème, conscient du petit problème d'image et a un petit peu peur qu'une partie des pays européens quitte le navire et que le système s'effondre. Et c'est pour ça que Michel Platini, notre Michel Platini national, qui a été le capitaine de l'équipe de France, quand il a été réélu à la présidence de l'UEFA, la fédération qui organise ces compétitions, eh bien, a été élu sur un programme quasiment, j'allais dire, altermondialiste. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que l'ont présenté les médias, notamment les médias français. Et son principal programme, c'était « il faut réguler le football et il faut imposer un fair play financier ». Et alors, l'idée du fair play financier est que toutes les équipes doivent respecter les mêmes règles financières. Et on retombe sur le thème de la dette. Parce que ce qui se passe, c'est que les plus grands clubs sont endettés, ont des déficits. Ce qui leur donne un avantage exorbitant par rapport aux petits clubs qui n'ont pas le droit. Alors Michel Platini a instauré un système, un panel de contrôle financier très sérieux qui est chargé de superviser les comptes des clubs. Il a mis à la tête de ce panel un certain Jean-Luc Dehaene, ancien Premier ministre de Belgique. Jean-Luc Dehaene était le vice-président de la Convention européenne qui a établi le projet de traité constitutionnel européen. Et Jean-Luc Dehaene affirme la main sur le cœur qu'il n'y aura pas de passe-droit, que si le Real Madrid, Milan AC ou Bayern de Munich ne respectent pas les règles, eh bien ces clubs pourraient même être exclus. Malheureusement, il est un peu permis d'en douter, dans la mesure où sans ces grands clubs, il n'y aurait pas d'argent, car le système financier de l'UEFA repose sur les droits télé. Tous les ans, l'UEFA redistribue 750 millions d'euros de droits télé. Or, les télévisions payent pour avoir du spectacle. Et le spectacle, ce sont les grands clubs qui l'assurent avec toutes ces stars. Et c'est tellement vrai qu'il y a une dizaine d'années, ces grands clubs avaient menacé
l'UEFA de quitter la fédération pour assurer plus de spectacles et pour réduire la glorieuse incertitude de sport, elles avaient menacé de créer une ligue fermée. Et à l'époque, le chef de file de cette fronde n'était autre que Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, président du Milan AC, un des plus grands clubs du monde, et accessoirement président des trois chaînes de télévision privées. Alors, cette offensive a capoté, mais dans la foulée s'est créé un lobby, on parlait de lobbying, le G14, qui n'a rien à voir avec le G8 ou le G20, mais qui est le club des principaux, des clubs les plus riches. Alors, ce lobby n'a cessé de vouloir réformer la Ligue des Champions pour fermer cette compétition aux petits clubs, aux petits pays, ce qu'elle a réussi. Et Michel Platini, quand il a été élu à la présidence de l'UEFA en 2007, a dit non, c'est fini le lobbying, je vais m'opposer à tout ça. Alors, dans les faits, il y a eu un petit compromis. Michel Platini n'a pas fait la grande réforme de la Ligue des Champions, le grand soir qu'il avait promis, et le G14 a accepté de se dissoudre. Donc tout le monde est content. Michel Platini serait ce grand leader altermondialiste du football, sauf que aujourd'hui, si on regarde le palmarès de la Ligue des Champions, depuis 20 ans, ce sont systématiquement les clubs les plus riches qui gagnent et les petits. Prenons un exemple concret, l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie envoient 4 clubs en Ligue des Champions et des pays comme la Belgique, comme la République tchèque arrivent péniblement à envoyer un qualifié. Encore faut-il que ce club passe 3 ou 4 barrages préliminaires. Donc on voit bien que dans les faits, ce sont toujours les clubs les plus riches qui s'affrontent. Et à tel point qu'un confrère qu'on ne peut pas taxer d'être gauchiste, les Échos, ont décerné la palme de l'hypocrisie à Michel Platini en disant « Oui, Michel Platini, vous dites que vous allez réformer la Ligue des Champions, mais en fait, vous êtes un vrai businessman, vous êtes de notre côté. On peut dire que vous êtes le vrai faux ennemi du sport business. »
Merci. Alors voilà une émission avec le monde diplomatique qui finit bien. Sabine Blanc. Un papier sur les Fab Labs. J'avoue que je savais à peu près rien, même rien du tout, sur les Fab Labs. Si j'ai bien compris, avec mon imprimante, désormais, je vais pouvoir fabriquer à peu près n'importe quoi, mais concrètement, physiquement.
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, quand même. Alors, les Fab Labs, c'est l'abréviation de Fabrication Laboratory, donc laboratoire de fabrication. Et c'est un concept, en fait, qui a été créé au début des années 2000, par le professeur Neil Gershenfeld, qui enseigne au MIT, au fameux MIT aux États-Unis. Donc il avait monté un cours de prototypage rapide, c'est-à-dire c'est un cours pour que les élèves apprennent à faire leur projet de fin d'études. Pour ça, il avait fait une salle où il avait réuni des machines-outils assistées par ordinateur. Donc c'est un peu plus compliqué que votre petite imprimante actuelle. Effectivement, on trouve des imprimantes dans les Fab Labs, mais c'est des imprimantes 3D. Donc c'est pas du papier qui en sort. Mais en fait, on conçoit le dessin de son objet avec un logiciel. Le logiciel est connecté à l'imprimante 3D et couche après couche de plastique, on va imprimer l'objet. Mais on trouve d'autres machines assistées par ordinateur, comme par exemple des coupeuses laser. On trouve aussi la trousse à outils du très bon bricoleur, des marteaux, des tournevis, des perceuses, tout pour fabriquer ce qu'on veut. Donc son cours, il l'avait appelé d'ailleurs... comment fabriquer à peu près n'importe quoi. Donc, initialement, c'était vraiment dans un cadre très scolaire, c'est-à-dire, vous faites votre projet de fin d'études, sauf que les élèves étaient tellement enthousiasmés qu'ils revenaient la nuit. Pour faire, et vraiment, c'est ce dont ils avaient envie. Et donc, c'est très encadré par des valeurs. En fait, il y a une charte. Et pour dire qu'on est un Fab Lab, il faut respecter la charte. Vraiment, au centre de ces valeurs, il y a l'éducation et le partage. C'est-à-dire qu'on vient pour apprendre. Il ne s'agit pas de dire « Ah, j'ai envie de faire une étagère adaptée à ma cuisine. Bah, tiens, il faut qu'elle ressemble à ça, tu me l'as fait. » C'est « Vous venez et vous allez apprendre avec les autres à la faire. »
C'est-à-dire que alors, je vais pouvoir, au lieu de bricoler dans mon petit atelier, dans mon garage, je vais pouvoir utiliser ce dispositif pour aménager ma maison, par exemple. Ou pour réparer un truc, un bouton de la cuisinière qui s'est barré.
Voilà, tout à fait. Et c'est en ça que les Fab Labs sont quand même assez politiques, parce que ça rejoint l'idée de décroissance, c'est-à-dire que plutôt que de remplacer toute la machine à laver, par exemple, vous allez juste refaire la pièce, vraiment sur mesure. Ça permet aussi de répondre à des besoins qui ne sont pas satisfaits par l'industrie classique, parce que l'industrie classique se dit « bon, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de bénéfice à faire ». Donc je ne m'y intéresse pas. Ce qui fait que c'est un concept qui essaime en Afrique, par exemple. Je sais pas, par exemple, au Ghana, il y a un Fab Lab qui a développé un projet de four solaire. Parce que l'industrie se moque complètement d'eux. Là, ils sont autonomes. Ils apprennent à faire vraiment ce dont ils ont besoin.
Mais oui, c'est ça. L'industrie se moque complètement d'eux parce que l'industrie a inventé l'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'il s'agit de fabriquer des objets qui se détruisent de façon à ce qu'on en fabrique d'autres. Enfin, c'est le système de la consommation. Là, votre truc, ça pourrait aller à l'encontre de ça.
Bah effectivement, enfin, Neil Gershenfield, son credo, effectivement, c'est fabriquer plutôt que consommer. Donc ça s'inscrit effectivement dans un discours de décroissance. Après, il faut voir aussi que ce n'est pas du tout incompatible avec une activité économique traditionnelle. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, je sais pas, je suis étudiant, j'ai un projet d'objet, je vais faire ce qu'on appelle proof of concept, c'est-à-dire un premier prototype pour voir si mon objet marche, il est viable, et ensuite passer à la petite série. Donc on peut incuber des affaires tout à fait classiques dans un Fab Lab, mais il ne faut pas que ça devienne le centre du Fab Lab.
La question que j'ai posée, quand même, je pense qu'elle interpelle tout le monde, c'est à partir de quel matériel ? C'est-à-dire, là, c'est le plastique, mais après, ça sera quel matériel ? Parce que c'est ça, la question. On se dit, mais bon, quel matériel est utilisé si je fais mon bouton ou mon étagère ? À partir de quel matériel ?
En fait, là, on a fait un peu une fixette sur l'imprimante 3D, parce que c'est vrai que c'est un objet emblématique du Fab Lab et de la fabrication numérique personnalisée en général. Mais dans un Fab Lab, on trouve aussi des découpeuses laser, par exemple, qui permettent de découper du bois. Donc, tous les matériaux, on peut faire de l'électronique aussi. Moi, je me souviens avoir croisé des jeunes gens dans le... C'était à Toulouse l'année dernière, il y avait une grosse conférence sur les Fab Labs, et ils avaient fabriqué un prototype de robot maraîcher pour assister en fait, les maraîchers dans leurs tâches un peu pénibles, genre, comme le désherbage, par exemple. Donc, c'était un robot, il n'était pas du tout en plastique, il y avait de l'électronique, du métal.
C'est génial, parce que c'est le retour du bricoleur.
Tout à fait, mais avec, vraiment, j'insiste dessus, cette dimension de partage et d'éducation qui fait que, enfin, pour moi, on est vraiment dans... C'est un outil d'éducation populaire assez extraordinaire. Moi, je rêve qu'il y ait des Fab Labs dans les quartiers difficiles, entre guillemets.
Oui.
Quand on voit, je sais pas, des quartiers mixtes comme, je sais pas, le 19e, le 20e à Paris, ou l'approche banlieue dans le 9-3, comme on dit, où il y a justement des populations de bobos, entre guillemets, numériques, parce que c'est vrai que ça nécessite quand même de maîtriser un peu les outils du numérique. Et ces populations où il y a des potentiels créatifs extraordinaires, de mixer tout ça dans les Fab Labs, qui se rendent compte et qui fassent des projets, c'est là qu'il faut investir. Si on veut faire du lien social intelligemment, c'est ça qu'il faut faire dans chaque quartier.
Parce que toutes les innovations technologiques qu'on a eues au 19e et au 20e siècle, à chaque fois, les bricoleurs ont essayé de récupérer. Quand l'aviation est apparue, il y a des tas de gars qui ont fait leur avion. Quand la TSF est apparue, il y a des tas de gens qui ont fabriqué leur poste à galène. Et il y avait une revue encore dans les années 60 qui s'appelait Système D, qui était un hebdo qui marchait très bien, où tout le monde achetait le système D pour voir comment on pouvait bricoler son truc. Et ça passionnait les gens, parce qu'on était dans l'idée, c'était pas la décroissance, le mot n'existait pas, c'est simplement l'idée de faire des économies. Et toutes les technologies ont été accompagnées de ces bricoleurs qui suivaient, sauf là, tout d'un coup, le numérique, c'est tellement compliqué, c'est tellement... Déjà, avec le transistor, on continuait à suivre, les gens étaient encore capables de souder eux-mêmes le transistor, et puis avec le numérique, avec l'informatique, là, on est largué.
Justement, c'est là aussi le grand intérêt des Fab Labs, c'est qu'on se réapproprie les technologies, ce qui avant était uniquement possible dans la grande industrie, c'est-à-dire faire du prototypage. Maintenant, moyennant 20 000 euros, on peut monter un Fab Lab, faire des choses extraordinaires. Et ça rappelle aussi les grandes heures du hardware hacking, c'est-à-dire quand les gens tripotouillaient les ordinateurs dans les années 70, avec quelqu'un comme Steve Wozniak, donc un des co-créateurs d'Apple. C'est des mecs qui mettaient les mains dans la machine, qui maîtrisaient la machine. Et en fait, c'est juste la continuité version plus numérique de ce mouvement. Donc renseignez-vous, tapez Fab Lab plus France et vous allez en trouver, et c'est ouvert.
C'était l'émission mensuelle de La Bassie J'y suis avec Le Monde Diplomatique. Merci à Alain Grèche, Frédéric Lemaire, André Grimaldi, David Garcia et Sabine Blanc. À lire sur tous ces sujets, L'Hôpital malade de la rentabilité d'André Grimaldi aux éditions Fayard, Adieu la croissance, bien vivre dans un monde solidaire de Jean Gadret aux éditions Les Petits Matins. Et à noter, Le Monde Diplomatique vient de sortir un DVD-ROM comprenant toutes ses archives de 1954 à 2011, soit 700 numéros du journal et plus de 50 000 documents à retrouver. Tous les renseignements sont sur leur site www.monde-diplomatique.fr. www.monde-diplomatique.fr. Vous retrouverez évidemment toutes ces informations sur le site de France Inter, www.franceinter.fr, à la rubrique émissions. Là-bas, si j'y suis, ainsi que sur le site la-bas.org et sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Martin Guénard. Réalisation Bertrand Chometon et Franck Adhérer. Assistante Marina Touillez, chef du répondeur Grégory Salomonovitch, qui attend vos messages sur le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.
Hier, avec le vent, j'ai toute la toiture qui est partie.
Ouf ! Oh bah là, t'es mal. Oh bah l'assurance va mettre des mois à te rembourser, puis alors trouver un couvreur à cette époque, c'est la galère. J'espère que t'aimes le camping, parce que là, c'est parti pour 6 mois.
À la GMF, les idées reçues, nous, on les plaque. Avec la nouvelle assurance habitation GMF, en cas de sinistre, non seulement on vous indemnise, mais en plus, on s'engage à trouver les artisans qu'il vous faut dans les plus brefs délais. C'est ça, une bonne assurance.
GMF, assurément humain.
Voir conditions et détails des prestations en agence ou sur gmf.fr.
Raoul, nettoyeur, j'écoute.
Elle est tombée. Elle est morte. Aidez-moi.
Calmez-vous. Elle pèse combien ?
Oh, je ne sais pas, mais c'est un gros modèle. Elle n'était plus toute jeune et entre nous, qu'est-ce qu'elle m'énervait ? Avec elle, pas moyen de regarder un programme TV en entier.
Je connais ça.
Au moins, je vais pouvoir m'en acheter une nouvelle.
Une nouvelle quoi ?
Ben, télé. Et ma télé, alors ?
Avec Ecosystem, il y a plus simple pour se débarrasser d'un appareil électrique. Tous les points de collecte et les solutions de recyclage sur ecosystem.fr.
Ecosystem.
Le plus simple, c'est de recycler.
France Inter, partenaire de Tim Burton, l'exposition. Après le Museum of Modern Art de New York, où l'exposition fut un succès historique, le travail de Tim Burton est enfin dévoilé au public européen, à la Cinémathèque française jusqu'au 5 août. Dessins, maquettes, extraits de films, l'occasion unique de parcourir l'étendue du travail artistique de Tim Burton, de l'originalité de ses premiers travaux et débuts chez Disney, jusqu'à l'envers du décor de ses films cultes. Retrouvez Tim Burton, l'exposition, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Après le journal, Frédéric Lodéon, vous écoutez France Inter, il est 16h. Et le flash vous est présenté par Laetitia Gaillet.
Pas de cadeau pour François Bayrou après le PS. L'UMP décide à son tour cet après-midi de maintenir son candidat face au président du Modem dans les Pyrénées-Atlantiques. François Bayrou est arrivé en deuxième place dans sa circonscription hier lors du premier tour des législatives, derrière donc la candidate socialiste et devant le candidat UMP. Appel aux dissidents après celui du PS, Olivier Falorni, à La Rochelle pour laisser place à Ségolène Royal. D'ailleurs, le dissident PS vient de déposer sa candidature officiellement pour le second tour cet après-midi. Donc après l'appel du PS, eh bien celui de Philippe Goujon à Brigitte Kuster à Paris. Le patron de la Fédération UMP de Paris appelle la maire dissidente du 17e arrondissement à se retirer au profit de Bernard Debré dans la 4e circonscription de Paris. Tous deux doivent s'affronter en duel dimanche prochain. Bernard Debré a obtenu 45,07% au premier tour et Brigitte Kuster 23,01%. Affaire conclue, Alstom et le fonds stratégique d'investissement annoncent cet après-midi le rachat de Translore pour 35 millions d'euros. Translore est la filiale du groupe alsacien LOR, actuellement en difficulté. La division de tramway sous pneus emploie 200 salariés. Le parquet de Pontoise a ouvert une information judiciaire cet après-midi pour notamment blessures involontaires dans l'affaire de Villers-Belle. Deux jeunes en scooter ont été blessés ce week-end dans un accident avec une voiture de police. Cela va permettre d'établir en toute transparence la réalité des faits, a déclaré le maire PS de la ville, Didier Vaillant. Des divergences sont en effet apparues sur les circonstances exactes dans lesquelles la voiture de police et le scooter sont entrés en collision. Le conducteur du scooter, lui, est toujours hospitalisé. Son état est stationnaire, dit-on. Quant au passager, lui, il est poursuivi pour vol, un vol d'ailleurs qui avait été commis la veille de l'accident. Il avait dit qu'il le ferait, c'est le cas depuis aujourd'hui. Le père algérien de Mohamed Merah a déposé plainte contre X, aujourd'hui donc pour meurtre avec circonstances aggravantes. La plainte vise implicitement la police française qui a donné l'ordre de l'assaut contre le tueur au scooter de Toulouse et Montauban. À l'étranger, en Syrie, l'armée continue de bombarder aujourd'hui plusieurs bastions rebelles. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 52 personnes ont été tuées. L'affaire qui fait tache dans le camp d'Obama, le secrétaire d'État américain en commerce John Bryson est soupçonné par la police de délit de fuite en Californie. Il aurait provoqué une série d'accidents de la route. 200 jours entre les mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, les parents et une quarantaine d'amis des deux otages français, Philippe Verdon et Serge Lazarevitch, se sont rassemblés ce matin à Paris. Manif de soutien donc sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro. Un fourgon blindé de la Brinks, victime d'un braquage ce midi à Marseille. Les malfaiteurs ont pris la fuite, ils n'ont finalement rien pu emporter, surpris sans doute par la détermination du chauffeur du fourgon qui a réussi à échapper à l'attaque. L'ancien boxeur professionnel Fabrice Bénichou est interné depuis hier soir à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Il menaçait de se suicider avec un couteau quand les policiers l'ont interpellé à son domicile parisien. Enfin, peut-être est-ce dû au mauvais temps. Les salles de cinéma font le plein depuis le début de l'année. Selon le bilan mensuel du Centre national de cinéma, on peut d'ores et déjà dire que la fréquentation des salles obscures est supérieure à celle de l'an passé, qui déjà était pourtant une cuvée exceptionnelle. Du 1er janvier au 31 mai, les salles ont enregistré plus de 87 millions d'entrées, soit 5,4% de plus que sur la même période l'an dernier. Vous écoutez France Inter, 16h03, et tout de suite, sans publicité, vous avez le droit à Frédéric Lodéon pour le Carrefour de l'Odéon.
Merci belle Laetitia. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, tout à l'heure, je recevrai Eckhart Runge, violoncelliste du quatuor Artemis, pour un très beau disque Schubert qui vient de paraître, les trois derniers quatuors, autant dire trois chefs-d'œuvre très puissants, très divers, très riches psychologiquement, plein de bonheur parfois, d'angoisse aussi à d'autres moments. Une rencontre, un superbe moment de musique et de psychologie. Je pense que Schubert à ce moment-là était vers la fin de sa vie dans une difficulté assez grande, il voyait l'horizon s'obscurcir, il y avait le géant Beethoven à ses côtés, enfin tout ça mérite d'être débattu et surtout entendre le résultat, la belle musique. Et ce matin, j'étais vraiment attristé pour les candidats du jeu des 1000 euros qui sont tombés lors du Super Banco, parce que Nicolas Stoufflet, qui est très gentil, qui a eu peur pour eux, qui leur dit toujours « Est-ce que vous voulez vraiment continuer ?» J'aurais fait pareil parce que ça fait toujours un peu mal. Eh bien voilà, on a posé une question et la question était un peu piégé parce que Nicolas a demandé qui était l'auteur de Fra Diavolo, donc un compositeur français, très parisien, il a bien fait de le dire d'ailleurs, mais il a cité aussi Manon Lescaut. Alors, pour beaucoup de gens, Manon, c'est Massenet, c'est de Massenet. Et les pauvres candidats ont répondu, hélas, Massenet. Manque de chance, et on ne le sait pas trop, Daniel François Esprit Aubert a composé aussi une Manon, elle s'appelle en vérité Manon Lescaut, le nom est précédé du prénom, et voilà, le piège était tendu, ben voilà, aussi un petit tour vers Daniel François Esprit Aubert, compositeur très très parisien, je l'ai dit, qui fréquentait les grands boulevards, qui aimait ça, il aimait les chevaux, les femmes, les grands boulevards, je ne sais pas dans quel ordre, il recevait ses solliciteurs à des heures indues, enfin pour nous, ou pour beaucoup de gens, très tôt le matin pour les décourager en tout cas ceux qui n'étaient pas sérieux. Il a été élève de Cherubini en 1823, il a fondé une société qui fonctionna pendant près de 40 ans avec le comédien et librettiste Scribe, et son succès a été lié au genre de l'opéra comique en général, et il y avait parmi ses succès Fra Diavolo, effectivement, Les Diamants de la Couronne, Haydé ou Le Secret, Manon Lescaut, qui à mon avis a induit en erreur nos candidats ce matin, et la Mette de Portici, un grand opéra qu'on a entendu à Paris récemment. Voici un peu de l'ouverture du Domino Noir, autre opéra comique de Daniel François Esprit Aubert. Thank you. L'ouverture du domino noir d'Esprit Aubert, on peut dire tous ses prénoms, on disait autrefois Daniel François Esprit Aubert, avec un R